Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, Jean-Louis Roumégas, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous étiez déjà élu député lors de votre dernier passage à Nous n'avons qu'une terre. Et puis, nous nous étions promis de vous revoir dès que la machine institutionnelle aurait repris son cours. Voilà, promesse tenue. Et cela fait maintenant presque un mois que vous avez rejoint l'Assemblée nationale. Et c'est votre deuxième séjour dans cette Assemblée du peuple, puisque vous avez déjà siégé à l'époque où vous étiez également adjoint du maire Georges Frêche.
Oui, alors ça, c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire.
En 2001.
Alors justement, les choses ont-elles changé ?
À l'Assemblée nationale ?
À l'Assemblée nationale.
La situation politique est très différente de celle que j'ai connue à l'époque de François Hollande, donc 2012-2017. Là, on est dans une Assemblée où il n'y a pas de majorité bien établie, donc ça fluctue selon les votes, selon les situations, les élections. On peut avoir des majorités qui se font, qui se défont. Donc le Parlement a un rôle qui est peut-être plus important, pas simplement une chambre d'enregistrement.
Mais l'ambiance a changé quand même.
L'ambiance a changé, bien sûr. Mais enfin, ce qu'on constate quand même, c'est à quel point nos institutions donnent un poids énorme à l'exécutif. Puisque là, on a un gouvernement qui est minoritaire, qui est même à sa tête quelqu'un issu d'un parti qui représente 5%, enfin qui est rien du tout, les Républicains, qui est en perte de vitesse, soutenu par un autre groupe qui a perdu beaucoup de députés, les macronistes, qui ont perdu les 2 dernières élections. Et malgré cela, la Constitution, une fois qu'il est nommé par la grâce du président de la République, donne à l'exécutif un pouvoir de passer en force, de décider des tas de choses. Et finalement, c'est assez compliqué pour... les députés de contrer. On va essayer de le faire sur le budget, là, on va en parler.
Oui, on va en parler. Alors, de toute façon, c'est certain aussi qu'on est sans réelle majorité. Alors, vous faites chaque semaine l'aller-retour entre Paris et Montpellier. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper un peu de Montpellier, quand même, dans cet emploi du temps chargé ? Et est-ce que c'est lourd pour vous ? Racontez-nous un peu une semaine d'un député qui s'appelle Jean-Louis Roumégas.
Alors, je n'oublie pas du tout Montpellier. Je passe en fait 3 jours à Paris, les mardis, mercredi et jeudi, et 4 jours à Montpellier, puisque les week-ends, c'est aussi souvent des moments d'action, de rencontres, de manifestations. Enfin bon. Donc, c'est 4 jours à Montpellier, 3 jours à Paris.
Donc, c'est un emploi du temps drôlement lourd, quoi.
Oui, à Paris, c'est y compris le soir. Les repas sont des moments de rencontres et de travail. Et puis à Montpellier, j'ai une permanence qui est au 128 avenue de Toulouse, qui me permet de recevoir donc les Montpelliérains, dans laquelle j'ai 2 collaborateurs que les gens peuvent aussi rencontrer. Voilà. Et puis j'ai une 3e collaboratrice à Paris.
Alors, passer ces considérations personnelles, je vais d'abord m'adresser à l'élu écolo, parce que avant de parler de votre commission, enfin de la commission que vous avez choisie, vous êtes quand même encore un élu ELV. Vous êtes d'abord un élu ELV, et donc Écologie Les Verts, et vous êtes. On vient de faire. Michel Barnier vient de présenter son budget, un budget qui nous dit que ce budget sera amendable. Bon, on va essayer de lui faire confiance. En tout cas, il avait, dans sa prise de position, parlé de 2 choses. Il avait parlé de la dette financière et fiscale dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il avait parlé aussi de la dette écolo. Et bon, comme par hasard, on n'en entend plus parler. Est-ce que vous pensez que c'est passé aux oubliettes ?
Oui, je pense que c'était un élément de langage. Michel Barnier, c'est le spécialiste des effets d'annonce, mais dans le concret, ça va être un recul pour l'écologie. Et la priorité de son budget, c'est la réduction du déficit public, ce qu'on peut comprendre. Mais la voie qui est choisie par Michel Barnier, c'est une voie qui continue dans l'injustice sociale. On en dira un mot.
Oui, ça veut dire quoi, voilà.
Alors, ça veut dire qu'il a,
parce que ça
encore
aussi,
une fois,
c'est des éléments de langage.
Un effet d'annonce, c'est la taxation des plus riches. Mais finalement, c'est comme le pâté d'alouette, si vous voulez. Il y a une alouette et un cheval. L'alouette, là, c'est 2 milliards pris aux plus riches de façon transitoire, provisoire, un impôt exceptionnel. Et tout le reste, c'est-à-dire près de 40 milliards qui sont pris aux classes moyennes et aux classes les plus pauvres, qui vont subir, par exemple, la désindexation des pensions de retraite. Quand vous gagnez 1 000 euros par mois de retraite, savoir qu'on ne va pas suivre l'inflation, ça veut dire de la perte de pouvoir d'achat, après les 14 ou 15% de perte de pouvoir d'achat qu'on a subi l'année dernière. Une taxe sur la consommation d'électricité, alors que les factures d'électricité...
Ça, on va en reparler tout à l'heure.
Les factures d'électricité ont déjà été quasiment multipliées par deux. Pour les petits ménages...
Enfin, c'était nécessaire, hein,
quand
même.
C'est extrêmement lourd. Il faut juste se rendre compte que les gens n'en peuvent plus. Certaines personnes renoncent à manger correctement, n'ont plus de quoi se payer le moindre.
Enfin, ce n'est pas la faute du problème.
Non.
Là, c'est la faute des gouvernements précédents qui n'avaient pas fait payer l'électricité au prix où elle aurait dû être.
Mais là, la faute de Barnier, c'est de continuer à faire peser le coût du déficit public à ces ménages. Il y aura aussi le ticket modérateur, la sécurité sociale qui augmente. Le taux de remboursement qui va baisser. Donc c'est quand même, encore une fois, les plus pauvres et les classes moyennes qui vont payer la facture. Et on a mis un tout petit peu de taxes aux plus riches de façon provisoire, alors que les pertes de pouvoir d'achat pour les classes moyennes vont être permanentes, sont durables. Donc si vous voulez, le gouvernement Barnier, c'est en fait une politique fiscale très injuste.
Mais c'est un lourd héritage.
C'est un lourd héritage, mais c'est les mêmes qui continuent. Enfin, encore une fois, c'est ça qui est fou, c'est que notre Constitution permet au président de la République de choisir un Premier ministre qui continue une politique qui est désavouée par les électeurs.
Alors justement, en septembre dernier, dans les news du mois, j'évoquais une baisse de 35% du budget de l'ADEME, de 60% de baisse du budget du Fonds vert, un rabotage du budget de la stratégie nationale pour la biodiversité. Alors, est-ce qu'à votre avis, tout cela va perdurer? Enfin, c'est pas...
Bien sûr, c'est ça, c'est les baisses des budgets en général. C'est vrai pour l'écologie, mais c'est vrai aussi pour l'enseignement. On sait que l'éducation nationale est exsangue. J'étais la semaine dernière devant un collège où les professeurs se plaignent qu'ils n'ont même plus les moyens de faire des travaux en sciences, qu'ils n'ont plus de quoi acheter les feutres pour écrire au tableau, les livres, les œuvres littéraires pour les enfants. On en est là. On en est là. Et on va encore avoir des baisses de budget pour l'éducation nationale ou pour l'hôpital. Donc, si vous voulez, à un moment, ce gouvernement est en train même d'aggraver situation pour les Français.
Aujourd'hui, quand même, vous êtes aussi un député. Enfin, là, je sens le député avec donc un programme global. Mais vous êtes surtout un député issu de l'écologie.
Oui.
Donc, c'est aussi constat par rapport à l'écologie.
L'écologie, c'est des annonces pour diminuer la part des renouvelables de fait, puisqu'on va bloquer la possibilité d'implanter des éoliennes, alors que vous savez que la France est en retard sur ses objectifs. Il veut assouplir les règles contre les pesticides, pour l'agriculture. On a d'ailleurs Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, est une proche de la FNSEA, qui réclamait depuis longtemps des assouplissements de la réglementation. Donc en matière de santé, de protection de la santé, là aussi, santé environnementale, c'est des reculs qui sont annoncés. En matière énergétique, vous voyez bien ce qui est fait. Ce n'est pas du tout le rattrapage en matière d'énergie renouvelable. C'est l'investissement massif dans des réacteurs, 6 nouveaux réacteurs EPR, mais qui ne seront peut-être en fonction que dans
2038-2039. J'ai visité Gravelines, là. Je reviens d'un voyage de presse donc à la centrale nucléaire de Gravelines où sont promis 2 nouveaux EPR2. Alors d'abord, c'est une situation absolument abracadabrantesque. Donc, on y parle d'un débat public, mais comme d'habitude, EDF n'a absolument rien changé. C'est un fait gouvernemental qui nous est imposé, le nucléaire nous est imposé, avec ce qui va coûter. Parce que si vous voyez ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse être à peu près à un niveau de sécurité, c'est incroyable.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça ne commencera à produire ses effets que dans 20 ans. Donc
sans... Si ça existe.
Si ça existe. Regardez ce qui s'est passé pour le premier EPR, les années qu'il a fallu, le retard, 15 ans de retard à peu près, et le coût qui a été multiplié par 5, je crois. Donc là, si vous voulez. Et à côté de ça, on vient de voir dans les détails du budget, encore, je voudrais signaler quand même des mesures anti-écologiques. Par exemple, la prime Rénov' pour les ménages, donc l'isolation des bâtiments. Parce que vous savez, en matière d'énergie, la première mesure écologique, c'est d'économiser l'énergie, d'isoler et d'avoir une bonne gestion. L'efficacité énergétique, c'est d'abord la première mesure. Eh bien, 1 milliard de coups de rabot sur cette prime Rénov', là aussi, ça ne va pas du tout dans le sens de l'écologie. Et puis, on peut citer également le fonds vert donc, pour les collectivités territoriales, qui va être diminué de
60% de baisse, hein, j'avais annoncé. Donc, vous confirmez que pour l'instant, on en est là.
On peut dire très clairement que l'écologie et le social sont les deux victimes de ce budget. Ça paraît à peu près clair.
Alors, avant de parler d'autre chose, s'annonce hein, la conférence de Bakou, donc la COP19, avec tout un problème dont on parlera d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission. Mais est-ce que la France était très, très en retard pour rendre sa programmation pluriannuelle énergétique? Est-ce que vous croyez qu'on va rattraper ce retard aujourd'hui ou bien est-ce que c'est un sujet dont on évite de parler?
D'abord, c'est un sujet qui n'est pas annoncé dans les priorités. Par exemple, dans le discours de politique générale du Premier ministre, ça n'y figurait pas. Et vu les orientations budgétaires qui sont annoncées, ça paraît peu probable. Il aurait fallu, si vous voulez, pour retrouver des marges de manœuvre. On a deux possibilités. Soit on fait ce que fait le gouvernement Barnier aujourd'hui, on fait payer les plus pauvres, on rabote tous les budgets de services publics et les politiques publiques d'environnement. Et on retrouvera peut-être des marges de manœuvre dans quelques années. Soit on s'attaquait réellement à l'injustice fiscale et on taxait les grandes entreprises et les plus riches qui, il faut le rappeler, ont vu leurs dividendes augmenter de 1 000 milliards ces dernières années. Donc continuer, si vous voulez, sous prétexte qu'il faut que la France reste attractive, que les riches sinon vont partir, etc. Ne rien faire, c'est se condamner à l'inaction. Et il faut surtout rappeler que cette politique qui est menée depuis 7 ans est celle qui a produit le déficit actuel. Donc, ça n'est même pas une solution. Donc, on est en train de s'enfoncer. C'est le cercle vicieux. Et je crois que le programme du nouveau Front populaire qui, lui, voulait repartir sur d'autres bases avec une justice fiscale permettait de relancer la machine de façon vertueuse.
Alors... Donc vous avez décidé de rejoindre la commission des affaires étrangères. Alors pouvez-vous nous expliquer ce choix? Parce que en tant qu'élu écolo, on vous attendait dans la commission développement durable.
Oui, alors on ne peut pas être tous dans la commission des développements durables. Et puis surtout, l'écologie, c'est un sujet transversal. Et sur les affaires étrangères, c'est un sujet majeur.
De plus en plus, on s'aperçoit qu'effectivement, l'environnement conduit à la géopolitique.
Tout à fait. Et il s'agit d'ailleurs de travailler à une géopolitique du climat qui viendra, qui doit supplanter à terme, si on veut la paix, cette géopolitique du pétrole et de la guerre, de la compétition internationale. La géopolitique du climat que nous défendons, c'est une géopolitique nécessairement de la coopération internationale et de
la
paix.
Vous aviez rendu, lorsque vous étiez dans votre première députation, vous aviez rendu un rapport sur la Méditerranée. Et vous retrouvez aujourd'hui cette Méditerranée à feu et à sang. Enfin, tout le Moyen-Orient est enflammé et on craint réellement de voir là une potentielle guerre mondiale, très grave en tout cas.
En tout cas, une situation extrêmement grave et explosive au Moyen-Orient, avec, il faut le dire, des pays européens et les États-Unis, l'Occident en général, qui est aveuglé, je crois, dans sa défense à tout prix d'Israël. Qu'on défende la sécurité d'Israël, c'est une chose, mais qu'on accepte la violence du gouvernement d'extrême droite israélien actuel, qui tue sans aucune considération pour les vies civiles, qui commet des crimes de guerre, qui embrase tout le Moyen-Orient. Ça, c'est inacceptable. Et je trouve que, pour le coup, le président de la République, enfin, a eu une parole juste quand il a dit qu'il fallait cesser les livraisons d'armes à ce gouvernement.
Alors, au sein de la commission dans laquelle vous êtes, alors vous ne nous avez pas dit aussi pourquoi vous vouliez. Excusez-moi.
Oui, parce que cette commission permet donc d'abord de parler de géopolitique, de voir les questions de façon globale et de retrouver les sujets écologiques aussi. Les océans, c'est traité au niveau international, la biodiversité, bien sûr, avec les COP sur la biodiversité et le climat, ça tout le monde le sait. Et puis encore une fois, on oublie trop souvent dans les politiques françaises à quel point on est tributaire de l'ordre mondial ou de la dimension européenne. Et donc là, dans cette commission, ça me permet d'avoir une vision plus globale, plus juste peut-être du monde dans lequel on vit.
D'être moins le nez dans le...
Moins le nez dans le guidon et une vision plus globale et plus juste. Voilà. Puis intellectuellement, j'avais envie de travailler sur ces dossiers-là.
Ouais. Et c'est très intéressant parce que finalement, vous retrouvez les sources de l'écologie, le global et le local. C'est-à-dire que vous êtes à l'Assemblée nationale dans une commission qui traite de l'international un peu, et vous revenez à Montpellier, vous êtes au niveau du local.
Oui, tout à fait. Et avec des questions très, très variées. Par exemple, la semaine dernière, nous avons traité la question de France Média Monde. Vous savez, donc les médias internationaux français, donc RFI,
TV5
France,
Monde,
France 24, alors TV5, elles ont fusionné maintenant les chaînes, et puis il y a aussi Monte Carlo Oudalaya, donc qui est une chaîne française de langue arabe. Donc c'est très important parce que ce sont des médias qui défendent dans le monde une vision de la presse qui est l'indépendance. Ce ne sont pas des médias d'État, ce sont des médias indépendants qui vérifient l'information et qui sont souvent, pour les démocrates du monde entier, des sources, des fiables pour avoir une information fiable, vérifiée. Donc c'est un modèle de journalisme, etc. Et ce modèle est en danger depuis que Macron a supprimé la contribution à l'audiovisuel public. Ces médias sont tributaires donc des budgets d'État, qui, encore cette fois, cette année, vont être diminués. Et c'est donc c'est ce rayonnement de la France, mais avec les valeurs de la France et l'indépendance des médias, encore une fois, la vérité qui est possible. Parce que souvent, il faut se rendre compte que dans beaucoup de pays, les médias sont des médias contrôlés. Et donc, la voix de la France, c'était aussi ça. Et c'est en danger aujourd'hui. C'est en danger, donc il faut trouver des sources pérennes de revenus. C'est un sujet, y compris pour les médias métropolitains, mais encore plus pour ces médias français dans l'étranger, qui touchent quand même 255 millions d'auditeurs par semaine.
Oui, oui. Moi, j'étais journaliste à RFI, donc je connais bien le problème et je sais que quand on arrivait effectivement en Afrique, on avait un accueil absolument fantastique parce qu'on nous attendait pour en savoir davantage sur des gouvernements qui souvent ne donnaient pas d'informations, quoi. Et donc, vraiment, on nous attendait avec impatience. Alors, vous avez... Vous êtes merci de parler des médias et merci d'évoquer ça. N'oubliez pas quand même qu'il n'y a pas seulement le gouvernement qui en est responsable. On a aussi des groupes comme Bolloré. On a aussi des grands patrons qui ont semé une zizanie extrêmement importante et j'aimerais quand même qu'on leur rende aussi un certain nombre de responsabilités.
Totalement, totalement. Et l'enjeu, c'est bien de maintenir des financements pérennes pour les médias qui sont... Alors, il y a plusieurs modèles. En Suède, par exemple, il y a aussi une contribution, un système qui permet aux médias d'être indépendants, de ne pas avoir besoin des groupes privés et de ne pas non plus être tributaire du budget de l'État tous les ans. Donc, avec une source de financement pérenne, la contribution, ça permettait ça. Et donc, il va falloir réinventer un modèle. C'est vrai pour les médias français de l'étranger, mais aussi pour les médias métropolitains, bien sûr. Et je le dis parce que dans la dernière campagne législative, vous aviez par exemple le Rassemblement national qui défendait la privatisation de tous les médias, de France Télévisions, par exemple. Quand on voit ce que ça a donné avec CNews, on comprend l'intérêt pour le Rassemblement national, mais sûrement pas pour la liberté de la presse et la qualité de la presse française, qui, encore une fois, est reconnue dans le monde entier pour son exigence, son indépendance, mais qui est en train de subir effectivement...
Donc là, c'est un des dossiers que vous suivez au sein de cette commission.
Bien sûr, il y a celui-là.
Alors justement, vous avez aussi, dans le cadre de ce dossier, organisé à Montpellier une exposition. Alors, je rappelle qu'il y a eu le lancement par l'ONU d'un responsable, enfin Michel Forst, s'est chargé de faire un peu une enquête à échelle internationale sur les sévices qui étaient infligés aux journalistes. De plus en plus, les journalistes sont emprisonnés, sont même assassinés. Enfin, il y a des pertes énormes. Et vous avez lancé, je crois, une exposition sur Montpellier à ce sujet.
Oui, sur l'état de la presse à Gaza, donc dans le conflit du Moyen-Orient, où vous savez que les journalistes étrangers sont interdits d'entrer et où le gouvernement israélien a organisé un blackout total. Et donc les seules informations arrivent des journalistes palestiniens qui sont ciblés. On a 168 journalistes qui ont été tués dans ce conflit. C'est énorme pour un territoire
Absolument.
Comme Gaza. Et ça représente... Pour avoir une idée de ce que ça représente au niveau mondial, c'est 3/4 des journalistes tués l'année dernière dans le monde. 3/4 des journalistes tués dans le monde l'ont été par l'armée israélienne à Gaza. On en est à un point où le gilet presse que portent les journalistes et qui est censé les protéger, puisque c'est considéré comme un crime de guerre que de tirer sur un journaliste, eh bien, à Gaza, ce gilet vous désigne comme cible. Et les journalistes en arrivent à le retirer. Donc, si vous voulez, on est dans une situation gravissime, mais c'est vrai, dans le monde entier, les journalistes sont de plus en plus pris pour cible.
Est-ce que votre exposition, on peut encore la voir?
Alors, l'exposition est encore visible dans ma permanence, au 128 avenue de Toulouse, et elle le sera pendant un mois.
Elle le sera encore pendant un mois. Alors, merci en tout cas pour cette inquiétude. Alors, je suppose aussi qu'on prépare un peu Cali quand même à la Commission des Affaires étrangères.
Oui, ça va, c'est un sujet qui va arriver, bien entendu. Je pense qu'il y aura une délégation de la Commission. J'essaierai d'en faire partie.
Ah, vous essayez d'y aller. Très bien. Alors, il y a des sujets extrêmement importants dont on aura l'occasion de reparler. Je rappelle que la COP 16 biodiversité ouvre le 20 octobre, donc à peu près dans une dizaine de jours, et il sera pour 15 jours. Alors, vous parliez tout à l'heure des problèmes de journalisme. Je voudrais insister justement sur quelque chose, sur la COP 29, pardon, sur le climat qui doit se tenir à Bakou. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, a déconseillé aux journalistes qui étaient seuls de se rendre à Bakou, dans la mesure où il suffit d'avoir un tract ONG dans sa besace ou de quelque chose pour se faire emprisonner d'une manière absolument anormale. Mais c'est grave parce que ça veut dire que seuls les journalistes qui seront dans les délégations officielles pourront s'exprimer. Les journalistes ne peuvent plus accéder non plus à ce type de...
C'est grave. Oui, et ça montre que les questions environnementales sont devenues aujourd'hui des sujets qui exposent les défenseurs ou les journalistes qui s'en occupent à une répression. Il y a beaucoup d'activistes ou de journalistes qui s'occupent de l'environnement. C'est fini le temps où l'environnement, on considérait que c'était un sujet gentil, etc. Aujourd'hui, c'est devenu l'objet de conflits et les puissants ont compris qu'il y avait là un conflit d'intérêts et une lutte. Et ils n'hésitent pas à cibler aujourd'hui.
Alors, merci Jean-Louis Romégas. On aura l'occasion, je suppose, de reparler sur cette antenne d'autres de vos sujets.
Merci.
Alors, très rapidement, quelques news avant de rendre l'antenne. Pendant ce week-end, un village du risque se tient place du Nombre d'Or à Antigone. C'est très important puisqu'il est dressé avec une dizaine d'associations qui vont parler du risque. Et il y a beaucoup à faire en France parce que nous en sommes qu'au béaba sur ce dossier. La sécurité civile, l'université de Montpellier, la Croix-Rouge, tout le monde sera là. On a la préparation de la COP biodiversité dont on vient de parler qui se tient toute la journée de lundi à Marseille. Les premières assises du droit de la mer, et on aura l'occasion de reparler de l'océan très longuement vers le 17 octobre. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler des énergies renouvelables et de la Chine, dont revient Frédéric Joffre de Texsol.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.